Les colloques du Collège de France.
Donc, la présentation suivante sera donnée par Jocelyne Trocas, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, dans le laboratoire LIMC à Grenoble. Elle est informaticienne, elle est l'experte incontournable dans le domaine de la robotisation et donc dans un domaine qui est très adapté à l'évolution, bien entendu, de l'hôpital du futur. Et c'est un peu le club de l'Académie des sciences. Cette session, elle est membre de l'Académie des sciences. Merci, Jocelyne.
Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, merci de l'invitation. Je suis toujours très honorée de venir au Collège de France. Et puis, le colloque est passionnant. Donc, je suis ravie de contribuer à ces discussions. Alors, je vais vous parler de robotisation et de salles d'opération. Alors, pour commencer, j'ai voulu mettre ces trois petites images parce que on est dans le contexte des interventions médico-chirurgicales. Et donc, une intervention, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur humain jusqu'à présent, c'est des instruments, et puis c'est tout un processus, tout un protocole généralement très codifié. Donc, on va voir à quel point déjà, ces différents aspects sont automatisés ou pas, et puis on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur. Alors, les salles d'opération elles-mêmes, c'est un concept qui finalement est assez récent, pendant des siècles. On faisait des interventions là où se trouvait le patient, dans un environnement clairement pas fait spécialement pour ça. Et puis, évidemment, avec les débuts de l'asepsie, de l'antisepsie, puis de l'asepsie, eh bien, on a évolué vers des lieux vraiment dédiés à la chirurgie, à différentes interventions, avec, vous voyez les choses les plus modernes dans cette photo, c'est déjà une espèce de bloc opératoire avec un sialytique, avec un système pour l'anesthésie du patient. Et en fait, il y a vraiment une rupture, je dirais, autour des années, à partir du milieu du XXe siècle, où l'informatique se met à exister, alors pas tout à fait l'informatique grand public avec les PC partout au début, mais déjà l'informatique. La robotique industrielle se met à exister également. Et puis, on a l'invention du scanner, typiquement dans les années 70. Et assez vite, on voit que ces dispositifs techniques, robots, ordinateurs, moyens d'imagerie, on viendra dessus, vont rentrer au bloc opératoire pour différentes interventions. Donc, vous voyez en haut le système. Est-ce que c'est le laser? Il faut que je le trouve. Je ne le trouve pas. C'est pas grave. Donc, en haut, c'est le système RoboDoc pour de la chirurgie prothétique de la hanche. Ensuite, on a des applications en neurochirurgie. Et ce qui était dans ces premières images des prototypes, essentiellement, ça devient un petit peu du standard des blocs opératoires, avec sur la gauche ce qu'on appelle un système de navigation chirurgicale. Là, ce sont des systèmes développés à Grenoble pour la plastie du ligament croisé, donc des opérations du genou sous arthroscopie, où l'opérateur va être aidé par des moyens de localisation. Et puis, l'image à côté, ce sont les robots médicaux, avec un opérateur humain qui opère un petit peu à distance du patient, mais qui contrôle des instruments portés par des robots. Alors, les pratiques évoluent, les instruments aussi, et c'est générateur de demandes de nouvelles technologies. Alors, si on revient un peu aussi dans la chronologie, on est passé de la chirurgie ouverte à des choses déjà mini-invasives. Ce que vous voyez, ce cadre sur la tête de quelqu'un, là, c'est quelque chose de très ancien, où on essayait déjà finalement d'opérer des structures cérébrales profondes à partir de l'extérieur sans ouvrir le crâne. Ça, c'est le cadre de Zernoff. Et puis évidemment, l'imagerie médicale comme le scanner va transformer les choses. Mais ces images scanner qu'on a avant l'intervention, il faut être capable d'amener l'information au bloc opératoire. Également, tout ce qui est chirurgie, vidéochirurgie, moyen mini-invasif, eh bien, on se met à opérer par des petits orifices. Ça modifie les instruments et le contrôle qu'a le chirurgien de ce qu'il fait, c'est à travers un écran 2D. Là encore, il ne peut plus toucher, il voit en 2D au lieu de voir en 3D. Donc, des difficultés supplémentaires. Alors, du ce qu'on appelle multiporte avec plusieurs trous dans le corps, on passe à ce qu'on appelle le single porte. Donc, typiquement, on va faire passer tous les instruments par le nombril. pour faire moins d'accès invasif au corps. Donc on verra les problématiques. Et puis, plus récemment, on va encore un cran au-dessus qui s'appelle la chirurgie NOTS, donc par des orifices naturels. Typiquement, on va utiliser un accès par l'œsophage pour aller accéder à travers l'estomac à une zone de l'abdomen. Et là encore, vous voyez que les instruments qui sont associés à ça sont des endoscopes semi-flexibles, on va dire, avec des canaux opérateurs, avec des instruments, et tout ça est piloté par quelquefois deux médecins pour un seul instrument. Donc là encore, ce qui est mieux pour le patient, car moins invasif, est plus compliqué pour le médecin. Et maintenant, on va vers ce qu'on appelle l'endoluminal, où on veut passer par l'arbre vasculaire, par l'arbre bronchique, pour être le moins délabrant possible pour le corps humain et très mini-invasif. Et donc, là encore, on a besoin d'instrumentation particulière. Et ça rejoint, alors il y a une convergence des spécialités, ça rejoint la cardiologie, la radiologie interventionnelle, où ce sont donc des médecins qui n'étaient pas des chirurgiens qui font des interventions sous imagerie. Alors ça rejoint aussi d'autres spécialités comme la radiothérapie, qui est très guidée par l'image, qui devient très précise avec beaucoup d'instrumentation. Alors nous on parle de gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur, et donc en fait c'est tout un tas de moyens additionnels, logiciels et matériels qui vont servir d'assistants un petit peu informatisés aux médecins pour prendre les meilleures décisions possibles, en intégrant le mieux possible toutes les images qu'on obtient sur le patient, mais également des informations qui viennent d'autres patients, de connaissances a priori, etc., et des moyens d'aide à la réalisation du geste qu'on a planifié. Donc ce domaine-là, il est vraiment très, très important, et vous allez voir, on va voir un petit peu les progrès qui se font dans les différentes thématiques. Alors, on a parlé de l'imagerie, Michael nous a montré des images fascinantes d'échographie. Alors, il y a eu déjà quelque chose de très important, c'est que plein de choses donc, sont passées de l'imagerie préopératoire, donc avant les interventions, à un usage péropératoire, typiquement les images scanners radiologiques. Alors, vous voyez ici, par exemple, on a ce qu'on appelle des C-arms, donc c'est... Alors pourquoi un C-arm ? Parce que comme si vous êtes observateur, c'est un C. Et donc ce C, il y a un émetteur de rayons X, un détecteur. Tout ça maintenant est numérique et plus analogique. Et ce C, il peut bouger autour de lui-même et autour d'un axe orthogonal. Et donc il y a différentes technologies. Vous voyez en haut à droite, ce C-arm est porté par un robot, ce qui permet d'avoir des géométries d'acquisition plus complexes et très précises. On a aussi ce qu'on appelle des O-arm, beaucoup pour des applications d'orthopédie, où finalement on a ramené le scanner au bloc opératoire. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est tout ce qui concerne également de l'imagerie plus fonctionnelle, métabolique. Alors typiquement ici, c'est de l'imagerie de fluorescence dans le système robotisé développé par Intuitive. On a accès à des images donc vidéo normales et on peut avoir des imageries de fluorescence. Et donc, si vous injectez un produit de contraste dans les veines du patient, vous pouvez vérifier en fluorescence, par exemple, que vous avez fait le bon clampage, que vous avez bien suturé comme il faut, ou bien vous pouvez vraiment visualiser une zone qui est irriguée ou pas par un vaisseau, par exemple pour faire une résection. On peut avoir là encore des imageries encore plus spécialisées, typiquement dans le cancer de la prostate. Il y a une protéine qui s'appelle le PSMA, la protéine membranaire, qui est plus nombreuse, plus exprimée dans les zones tumorales. Et moyennant son association avec un fluorophore, on est capable d'avoir une imagerie de la tumeur. Donc vous voyez, sur la gauche pardon, des images, c'est les vidéos endoscopie, les images endoscopiques. Et puis à côté, vous avez l'image de la tumeur. Donc on peut voir là où il faut aller resséquer la tumeur. Et quand on a commencé la chirurgie, on peut voir si on a tout enlevé ou si on n'a pas tout enlevé. Donc c'est des éléments vraiment importants de prise de décision. On a aussi de l'imagerie multispectrale, donc par exemple là c'est pour des résections transurétrales dans la vessie, donc si on image avec un autre spectre de longueur d'onde, eh bien on voit beaucoup mieux les zones à resséquer. On a également maintenant de l'imagerie microscopique avec des sondes. Vous voyez ici, c'est une sonde qui est utilisée donc en endoscopie, où non seulement on a l'image vidéo normale, mais on a accès également à une image microscopique qu'on ferait sinon en extrayant du tissu et en faisant une anapath associée. Et alors enfin, il y a tout un tas de nouveaux capteurs, alors qui ne sont pas encore vraiment du standard, mais vous allez voir des applications. Alors on a vu les localisateurs, je ne regardais pas au bon endroit. Les localisateurs, vous voyez, c'est ce petit dispositif. Ça permet de suivre la position d'un instrument, d'un capteur, d'une structure anatomique rigide, de traquer son mouvement. Mais vous avez également des capteurs qu'on appelle RGBD, donc ce sont des caméras, alors c'est grand comme ça, hein, c'est tout petit. Ça permet d'avoir une image, à la fois une image RGB, donc rouge, vert, bleu, normal, et ça permet également d'avoir une image de profondeur. Et souvent, c'est associé à des logiciels qui permettent comme ça de suivre très naturellement à une haute fréquence la position, les déplacements d'un opérateur. Donc, on va voir un exemple d'utilisation. Alors, mon téléphone se met en veille. Alors, d'un point de vue des robots, puisqu'on est ici pour parler un petit peu de robotique, l'utilisation du début de la robotique, c'était vraiment l'idée que le robot... D'abord, c'était plutôt une vision presque industrielle de la médecine. On faisait des trucs de précision, l'orthopédie, usiner une cavité prothétique ou accéder à une zone dans le cerveau très précis. Et en fait, le robot était là pour faire le lien entre l'univers numérique, des données, du scanner préopératoire et le patient réel dans l'espace physique au moment de l'intervention. Donc, ça a été ça la motivation, initiale. Mais les robots, ça sert à plein d'autres choses. Ça a différentes capacités de déplacer des objets très massifs. Vous avez vu ce SIARM qui était déplacé par un robot, mais ça peut être aussi déplacer un système d'irradiation en radiothérapie ou un microscope opératoire, j'en passe, c'est des meilleurs. Ça peut être évidemment précis et permettre de faire de la microchirurgie mieux que ce qu'on fait à la main. Ça permet aussi de donner une troisième main à l'opérateur quand il en a que deux, ce qui arrive souvent, et s'il n'a pas d'aide et qu'il est tout seul. Et puis, ça permet aussi éventuellement de projeter un opérateur à distance dans un milieu contaminé ou un milieu irradié ou je ne sais quoi. Et enfin, vous allez voir des applications où, si les robots sont suffisamment petits, intégrés, on peut les utiliser pour faire des actions intracorporelles. Alors tout ça, hein, c'est des utilités techniques, mais c'est toujours pour servir une cause clinique et donc toujours associé à ces dispositifs. C'est comme dans les médicaments, on a la notion de service rendu. Donc par exemple, on veut utiliser un robot pour mettre une prothèse en espérant que la prothèse sera mieux placée en termes de précision, mais que de ce fait, il y aura une meilleure stabilité, moins de problèmes de décellement et tout ça. Donc vous voyez, il y a toujours cette phase d'évaluation clinique aussi des dispositifs. Alors, il y a plein de robots. Alors, ça, c'est les robots industriels. Il y a aussi des tonnes de dispositifs qui sont dans les tiroirs des labos. Mais donc, il y a des choses... Alors, toutes les applications, de chirurgie laparoscopique, mini-invasive, endoluminale, etc. Eh bien, ça va trop vite. Les applications d'orthopédie, je reviens dans l'autre sens. Voilà, orthopédie, beaucoup pour la chirurgie de la prothèse ou de la traumatologie, etc. Des choses reliées à la tête. Alors, tête, ce n'est pas un terme très médical. Donc, la neurochirurgie, l'ophtalmologie, l'ORL. Un peu de maxillofacial, mais ce n'est pas très robotisé. Beaucoup d'applications en radio interventionnelle, je vous l'ai dit, et puis des applications en radiothérapie, donc soit pour déplacer le système d'irradiation, soit pour déplacer le patient, pour certains types de rayonnement, où par exemple on utilise des synchrotrons, et donc c'est le patient qu'on positionne et pas le faisceau lui-même. Alors les tendances actuelles, vous allez voir, c'est beaucoup d'aller dans l'endoluminal et d'aller vers ce qu'on appelle la robotique continue. Alors, robotique pas continue, la robotique classique, mon bras, c'est un robot classique. Vous avez des articulations en nombre limité, reliées par des segments rigides ou considérés comme tels. La robotique continue, c'est typiquement une trompe d'éléphant. Une trompe d'éléphant, vous voyez, c'est une structure qui est continuellement déformable. Il n'y a pas d'articulation, mais tout est articulé. Tout n'est qu'une une succession de choses déformables. Et donc, la capacité de ces systèmes déformables, c'est d'aller dans des zones anatomiques difficiles à accéder. Donc, il y a déjà des choses qui existent. Donc, je vous ai parlé du single port tout à l'heure, où on voulait passer par l'ombilique. Donc là, vous voyez un exemple, c'est la tête du robot. Et donc, ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est le déploiement de ce dispositif pour aller accéder à une zone ou une autre. Et donc, vous voyez, tout va se redéployer dans des espaces très confinés et l'opérateur va utiliser ce genre de dispositif pour déplacer les instruments ou la caméra. Autre application qu'on voit au-dessous ici, c'est pour de la bronchoscopie. Donc là, on passe par l'arbre bronchique pour aller prélever quelque chose dans les poumons à proximité des bronches ou de différentes structures. Et donc, on va avoir ce système articulé, vous voyez, qui est piloté par un opérateur humain, donc qui pilote l'extrémité du dispositif. Je regarde l'heure. Également, troisième exemple, c'est ce robot. Typiquement, ce serait pour une coloscopie, où vous avez un endoscope qui va dans le côlon, rectum, et qui doit prendre des courbures assez difficiles à prendre. Et donc là, vous voyez, ce système, il a ça d'intéressant, c'est qu'il modifie sa courbure, mais il garde la courbure en progressant. On appelle ça « follow the leader » ou une structure en file indienne, pour ne pas être agressif par rapport à l'environnement quand on pilote l'extrémité distale. Et enfin, un autre exemple ici d'un dispositif également très miniaturisé pour aller, là encore, vous voyez, faire des interventions dans des espaces très confinés. Alors, ce qu'on voit sur les dernières images, qui ne sont pas animées, c'est un défi de miniaturisation. Ça, typiquement, c'est la taille standard d'un instrument endoscopique. Donc, vous voyez, bon, c'est pas gros, mais c'est pas petit non plus. Et donc, on va plutôt vers des architectures comme ça. Alors, ces robots s'appellent des robots à tubes concentriques. C'est comme une antenne télescopique, mais dont les segments sont précourbés. Et en les sortant plus ou moins et en les tournant plus ou moins, on obtient des structures qui sont très, très déformées, très déformables aussi, parce que c'est tout petit. Et donc, vous voyez ici, nous, on a développé dans mon laboratoire des systèmes avec deux bras, donc qui sont tout petits également. Et donc, ça permet d'envisager vraiment du ultra-mini-invasif. Alors, les défis qui restent sur ces systèmes très intégrés, très déformables, comme ici ou ici, c'est des défis de modélisation. Hein. On ne sait pas modéliser ça avec les logiciels standards de CAO. Là, c'est de la mécanique des milieux continus. Et en plus, ces dispositifs, ils sont en interaction avec les tissus dans lesquels on les utilise. Donc, la déformabilité, qui est un élément de sécurité, c'est aussi un élément d'imprécision. Donc, il y a toute une problématique de modélisation et d'intégration de capteurs. Alors, l'interaction, je regarde mon téléphone qui se met en veille, je suis trop lente. L'interaction humain-robot, c'est souvent de la téléopération. Donc, l'opérateur finalement télécommande son robot. Alors, il peut y avoir des fonctionnalités un petit peu pour filtrer tout ça, pour faire des facteurs d'échelle. Vous voyez que c'est assez basique, hein, vous pilotez comme ça à la main votre robot. On a des choses plus intermédiaires où le robot contraint le geste de l'opérateur. Là, typiquement, c'est pour des résections osseuses. Pardon, c'était pas ça que je voulais. Eh ben, on continue. Excusez-moi. Donc, on veut reséquer un bout de plateau tibial pour mettre un élément prothétique. Eh bien, le robot, finalement, va laisser l'opérateur libre de ses mouvements dans la zone verte, mais il va interdire de sortir de cette zone qui est planifiée. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant pour guider le geste. Et puis après, on peut avoir des choses avec de l'automatisation. Et donc, les choses, je dirais, les plus intelligente, alors avec des extrêmes grosses guillemets, c'est ce système de radiothérapie que je vous ai déjà démontré. Donc le robot, il est là derrière. Et sa capacité intéressante, c'est qu'il est capable de faire l'irradiation d'une tumeur, mais de s'adapter, d'adapter sa trajectoire en temps réel à la respiration du patient. Donc la respiration, hein, c'est un truc qui est un peu répétitif, qui ressemble à quelque chose de régulier, mais c'est jamais complètement la même chose. Et donc, il faut avoir cette capacité d'adaptation. Donc, il y a la combinaison d'informations de capteurs d'imagerie et d'une modélisation a priori qui permet patient spécifique. Hein, donc, c'est un jumeau numérique de ce patient en particulier qui permet d'adapter les trajectoires. Alors, on essaye d'automatiser des choses. Je vais aller directement à des choses qui nous amènent un peu vers l'IA. Donc, vous voyez ici, typiquement, avec toutes ces vidéos endoscopie, ces vidéos chirurgie, on a accès à des bases de données d'images de chirurgie réelle et de trajectoires de robots qui sont très intéressantes. Et donc, typiquement, là, vous voyez, c'est Johns Hopkins Hospital et Stanford qui ont fait des premières démonstrations d'automatisation de sutures. Donc, le robot, par des méthodes d'apprentissage de l'état de l'art, apprend à faire des sutures. Et vous voyez que même si on perturbe le geste, là, on va voir quelqu'un qui vient enlever le fil à un moment donné, tac, eh bien, le système est capable de se redépatouiller avec. Alors, il y a d'autres exemples un peu plus récents de cette même équipe qui ont permis de faire de la chirurgie plus élaborée que ça avec un robot de manière autonome. Alors, pour finir, l'IA au bloc opératoire, ben, c'est comme partout ailleurs. Il y a de l'IA maintenant qui rentre au bloc. Alors, évidemment, pour traiter les images de base. Mais vous avez vu, toutes ces images de vidéochirurgie, là encore, elles permettent d'accéder à des bases de données pour savoir, typiquement, on fait une chirurgie de la résection, on enlève la vésicule biliaire, et ben on peut regarder 25 000 vidéos de résection de vésicule biliaire et apprendre à un système à analyser les images. Donc, ces travaux de collègues à Strasbourg, vous voyez que en temps réel, le système est capable de détecter les organes d'intérêt, la position des instruments, et est capable de savoir où on en est dans la chirurgie et donc éventuellement de mettre des alarmes, de produire des comptes rendus automatiques. Ça peut être aussi des aides à la formation. Donc il y a vraiment tout un potentiel. Autres applications, là c'est une application pour mettre des prothèses endovasculaires, des prothèses pardon, de valves dans le cœur. Donc le cœur, on ne le voit pas très bien en radio. On peut injecter du produit de contraste, mais c'est un petit peu invasif, donc il faut un peu limiter ça. Et donc, la société Carenx, alors, vous voyez que, alors, je vous montre par contre cet élément-là, donc on veut mettre la prothèse ici, et le paramètre critique, c'est la profondeur d'insertion de la prothèse. Et donc, c'est vachement dur de juger, d'après les images qu'on a vues avant, de combien on a inséré la prothèse. Et donc, Carenx a développé un système qui permet, avec un apprentissage à partir, là encore, de bases de données, de vidéos fluoroscopiques annotées, de détecter automatiquement la profondeur d'insertion de la prothèse pour piloter et aider au mieux l'opérateur. Et donc, dans leur projet, dans quelques mois, un robot va être automatisé pour insérer. Alors, c'est un robot tout simple, hein, ça avance un cathéter, mais l'avancée du cathéter va être liée à l'information extraite des images. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de validation clinique. Et enfin, un autre exemple. Alors, je vous ai parlé de ces capteurs RGBD, et donc il y a des blocs opératoires. Là, c'est à l'IHSU de Strasbourg. C'est une salle hybride, donc à la fois pour la radio interventionnelle et de la chirurgie, où vous avez au plafond ces capteurs RGBD, et ça permet de détecter la position des opérateurs, précisément leur activité pour différentes choses. Mais une des applications, c'est pour la sécurité radiologique. Les gens qui font de la radiologie interventionnelle, les opérateurs, ils ont souvent des maladies professionnelles dues à un surcroît d'irradiation. Et donc, moyennant des méthodes d'IA, des méthodes de calcul de doses très élaborées, mais qui arrivent à être temps réel, on est capable de visualiser en temps réel le champ d'irradiation avec les différentes intensités. Et donc, je vous montre les vidéos pour que vous voyez que c'est bien en temps réel. Donc, quand le système tourne, on voit les champs d'irradiation. Évidemment, on sait calculer ce que le patient reçoit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez l'opérateur ici, il voit quand il est dans le champ la dose qu'il reçoit. Sinon, on mesure ça avec un petit dosimètre sur la poitrine, ce qui est quand même assez élémentaire. Et donc, vous voyez, il y a à la fois, ça peut être quelque chose utilisé au bloc en salle hybride pour monitorer, mais ça peut être aussi des outils de formation pour les opérateurs qui travaillent dans ces conditions. Alors, pour terminer, donc, que sera demain ? Alors, là encore, c'est toujours difficile de faire des prédictions, mais il est clair que, vous avez vu, moi j'ai parlé de robots, mais intégrés dans un environnement d'imagerie et de logiciels de prise de décision, donc je pense qu'il faut toujours considérer un peu tout cet ensemble. On voit des évolutions un petit peu inévitables de miniaturisation, peut-être une meilleure intégration de capteurs avec les robots. Souvent, les robots sont fixés sur une table, au plafond, ou sont rattachés, quand ils sont dans le corps, ils sont rattachés par différents dispositifs. On pourrait imaginer des choses un petit peu plus sans fil, un peu plus autonomes, avec différents moyens d'actionnement, le magnétique qui n'est encore pas tellement utilisé, le biochimique. On a des collègues à TIMSS et ailleurs qui travaillent sur l'idée de comment utiliser toute l'énergie biochimique. Il y a des tas de choses, des sels, des sucres dans le corps qui peuvent servir à actionner un robot. Donc, différentes choses. Et puis, en fait, la réponse à ce que seront les technologies, c'est un petit peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire que les technologies seront aussi ce que sera la chirurgie, ce que seront les interventions demain. Il y a eu des grandes évolutions, les thérapies géniques, toutes sortes de thérapies qui finalement ont enlevé des opérations à la chirurgie. On peut s'en réjouir. Mais voilà, il y a des évolutions. Mais ces nouvelles thérapies, elles peuvent aussi avoir besoin de nouvelles technologies. Donc tout ça va être un petit peu lié. Alors ça pose aussi des questions de la formation. On en a parlé beaucoup ces deux jours. Toutes ces nouvelles technologies, il faut que les opérateurs de tous les métiers qui sont au bloc opératoire typiquement les comprennent, sachent s'en servir. Et il y a un défi aussi du temps qui va trop vite. Parce que il y a quelqu'un qui avait mesuré ce qu'on appelle la demi-vie des technologies. Donc c'est le temps qui passe pour que 50% d'un domaine soit renouvelé. Et typiquement, les techniques médico-chirurgicales, les connaissances médico-chirurgicales, la demi-vie, c'était évalué à peu près 5 ans. Donc, tous les 5 ans, vous voyez, il y a la moitié des choses que vous ne faites plus et vous en faites des nouvelles. Et donc, il faut prendre le temps d'apprendre et il faut des outils aussi pour l'apprentissage. Donc, il faut apprendre les nouveaux outils, mais aussi, il faut des nouveaux outils pour aider l'apprentissage. Et enfin, peut-être finir avec des questions qui sont liées aux inégalités de toutes sortes, territoriales. Toutes ces technologies ne sont pas utilisées ni partout en France, ni encore moins partout dans le monde. Donc, il y a des questions qui se posent, de coûts, également des questions écologiques liées aux matériaux. Donc, c'est des choses qu'on peut prendre vraiment en considération quand nous réfléchissons à de nouvelles idées, à de nouveaux dispositifs. On peut juste maintenant ne plus faire semblant d'ignorer ces choses-là, et donc on peut penser à ça dès qu'on conçoit de nouveaux dispositifs. Et voilà.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.